Bonjour Sonra, ça fait plaisir de vous voir et je voulais aussi ajouter des salutations à des amis qui nous visitent d'Afghanistan, de Suisse aussi je crois. Est-ce que j'ai oublié des pays? Ok, donc soyez aussi les bienvenus ce matin parmi nous. Si vous entendez une traduction en anglais, voilà, vous savez pourquoi. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de balle? C'est une balle qui s'appelle une balle rebondissante, quand on a 4 ans, qui s'appelle une balle rebondante quand on a 5 ans, parce que le verbe rebondir. Et puis après, quand on est plus grand, on comprend que ça s'appelle une balle rebondissante. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette balle est interdite chez moi à cause de ça. Parce que... Voilà, il y en a qui ont des réflexes quand même. Est-ce que vous savez à partir de quel âge, lorsque vous étiez devant un champ avec des équidés, vous avez arrêté de dire que « Oh, les chevals !» Mais voilà, que vous avez commencé à dire des chevaux. Je pense qu'on est tous concernés par cette difficulté de la langue française, de ces histoires de mots qui se transforment lorsqu'on parle du singulier au pluriel. Hein, puisqu'on dit un cheval, des chevaux, on dit un animal, des animaux, on dit un chacal, des... Voilà. C'est des fois pas tout à fait logique. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin est justement cette idée que la compréhension qu'on peut avoir de qui est Christ peut parfois changer au fil du temps. Et j'aimerais vous montrer pourquoi c'est le cas. Mais pour cela, j'aimerais revenir sur l'objet de du message ce matin. Nous sommes dans une série sur l'évangile de Marc, que nous avons commencé depuis quelques mois. Et nous arrivons à un moment très très fort de cet évangile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'évangile de Marc est divisé en deux grandes parties. Jusqu'au chapitre 8, il est question de l'autorité, il est question de l'autorité du serviteur, il est question de l'influence de ce serviteur sur les personnes qu'il côtoie. Et puis voilà que dans la deuxième partie de Marc, le thème change. Désormais, Marc s'intéresse au chemin de souffrance du serviteur, aux étapes suivies par ce serviteur pour racheter son peuple. Et on a donc le début de la longue marche de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix. Et il se trouve que le passage du jour qui nous intéresse, c'est les chapitres 8, verset 27, à chapitre 9, verset 13. Et vous remarquez que ce passage est un passage pivot. On est en fait au centre de l'évangile de Marc et on est à cheval sur la fin de la première partie et le début de la deuxième partie. Ce passage, on pourrait l'appeler « La souffrance conduit à la gloire ». Et on va voir ensemble pourquoi. Ce passage du jour, il est composé de deux récits particulier. Premier récit, verset 27 au verset 1 du chapitre 9, il s'agit de la confession de Pierre. Pierre affirme que Jésus est le Messie. Et puis, ce passage est aussi composé d'un deuxième récit, le récit de la transfiguration, dans lequel le Père confesse à son tour « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » On a donc une double confession dans ces deux passages qui font écho l'une à l'autre. Et le défi que j'aimerais vous proposer de comprendre ce matin, c'est à quel point ce passage central dans l'évangile de Marc est un passage est composé de ces deux confessions qui font écho l'une à l'autre et de deux passages qui se complètent l'un et l'autre. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais on va essayer. Ce passage, si on pouvait le résumer en 4 points, est composé de l'idée que d'abord il y a la confession de Pierre, ensuite il y a l'opposition de Pierre, la détermination de Jésus, et enfin la proposition de Jésus. Tout d'abord, la confession de Pierre. Et je vous propose de lire les versets 27 à 30. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée et de Philippe. Il leur posa en chemin cette question : « Qui suis-je, d'après les hommes ?» Ils répondirent : « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Deux questions posées par Jésus. La première, « Qui suis-je d'après les hommes ?» C'est une question plutôt d'ordre général. C'est un peu un sondage d'opinion. Jésus est bien reconnu par ses contemporains comme une personnalité remarquable. D'ailleurs, ce passage fait écho au chapitre 6 à Hérode qui s'inquiétait de savoir si Jésus était le nouveau Jean-Baptiste qui était revenu. Et d'après vous, qui suis-je ? Deuxième question, qui là est plus personnelle. Cette fois-ci, Jésus demande aux disciples de se positionner et de donner à eux leur avis. À titre personnel, on peut imaginer qu'il y a eu une petite temps de réflexion entre les disciples. Pierre se positionne comme un porte-parole et il affirme « Tu es le Messie ». Affirmation extrêmement forte parce que c'est la première fois depuis le début de l'évangile de Marc que les disciples affirment ouvertement de leur bouche qu'ils ont compris que Christ, que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, puisque Messie et Christ sont synonymes. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a déjà eu une mention de Jésus comme le Christ, comme le Messie, dans l'évangile de Marc. C'est dans le titre de l'évangile, chapitre 1, verset 1. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » Mais si vous voulez, comme Marc est l'auteur de l'évangile, il écrit ça a posteriori, pour donner un titre à son livre. Et donc, chronologiquement, Pierre est bien le premier à dire « Tu es le Messie ». C'est un moment fort de l'évangile de Marc, parce que ça y est, c'est clair et net, les disciples reconnaissent Jésus comme le Messie. Mais la transfiguration, l'histoire qui suit, a le même objectif. Je vous lis le début de ce passage sur la transfiguration, versets 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Pourquoi l'objectif est le même que la question de Jésus et d'après vous, qui suis-je ? Parce que si dans un premier temps, Pierre a répondu « Ok, je reconnais que tu es le Messie », dans un deuxième temps, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils soient aussi les témoins d'une expérience extraordinaire et qu'ils puissent aussi derrière raconter et affirmer ce qu'ils ont vu. Alors il y a un détail dans ce récit de la Transfiguration, c'est qu'à la fin, Jésus leur dit de garder motus et bouche cousue. Sauf que, une fois que Jésus est mort, ressuscité, cette fois-ci, les disciples sont libres de raconter cet événement. Et c'est ce que font Pierre, et c'est ce que fait aussi Jean, dans 2 Pierre 1, verset 6. Regardez ce que Pierre dit. « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Pierre ici fait directement référence à ce qu'il a vu lors de la transfiguration. Jean fait la même chose dans son épître, chapitre 1, verset 2. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Nouvelle référence à cet épisode de la Transfiguration. Mais quelque part, lorsque Pierre et Jean affirment cela, c'est quelques années après. Parce qu'ils ont eu le temps de comprendre ce qui s'était passé à la Transfiguration. Parce que le texte nous dit ici très clairement qu'ils n'ont rien compris. Pierre voulait construire une tente pour que Jésus, avec Moïse et Élie, puissent être bien installés pour parler ensemble. Et puis derrière, il est question de la résurrection. Et là, pareil, il se demande ce que veut dire ce mot « résurrection ». Jamais entendu. Et ils n'en ont pas le sens. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ça nous permet de mieux comprendre la réaction de Pierre. La compréhension de Jésus comme le Christ pour les disciples s'est faite lentement. Et elle suscite même une opposition de la part de Pierre. Je vous propose de continuer à lire les versets, donc chapitre 8, versets 31 à 33. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Comment expliquer cette réaction si forte de la part de Pierre ? Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Le mot « reprendre » qui est utilisé ici extrêmement fort, c'est le même mot qui est employé lorsque Jésus chasse des démons de personnes qui sont possédées ou démonisées. Et c'est donc un mot extrêmement, extrêmement violent. Comment Pierre peut-il réagir avec autant de violence ? Alors, c'est marrant parce que moi, de ma culture, j'ai toujours entendu qu'on cassait du sucre sur le dos de ce pauvre Pierre qui était quand même, vous savez, il est considéré comme quelqu'un avec un tempérament colérique, impulsif. Et en fait, il y a un détail qui est énorme et qui peut permettre de le dédouaner un petit peu et de comprendre pourquoi sa réaction est aussi forte. Surtout que, là on parle de Pierre, mais Pierre est probablement le porte-parole de ce que les disciples pensent, donc il n'était pas tout seul, c'est juste celui qui a le courage de parler et de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Si vous étiez là il y a 15 jours, David a partagé le passage précédent dans Marc 8, où il est question d'un aveugle que Jésus guérit. Mais Jésus le guérit en deux temps. Premier temps, il commence à voir, mais il dit « J'aperçois les gens et je les vois comme des arbres qui marchent. » Alors, on pense que c'était vraiment un problème de vue, hein, d'accord ? Et dans un deuxième temps, Jésus revient à la charge et cette fois-ci, ça y est, ses yeux sont complètement guéris et il voit distinctement. Et cette image est clairement celle qui nous permet de comprendre ce qui se passe pour les disciples. Oui, ils ont compris que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le Sauveur que le peuple juif attendait depuis 700 ans, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Dino. Mais ils n'ont pas encore tout compris. Ils voient une Christ, mais pas totalement clairement. Alors qu'est-ce qu'ils ne voient pas clairement ? En fait, qu'est-ce qui choque Pierre ? C'est le verset 31. Qu'est-ce que Jésus leur dit ? Le Fils de l'homme va souffrir beaucoup, il va être rejeté et il va être mis à mort. Tu es le Messie, Pierre dit, et l'instant d'après, Jésus dit, je suis le Messie, ok, mais je vais souffrir, je vais être rejeté, je vais mourir. Et ça choque Pierre. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Le Messie est annoncé, hein, les Juifs attendent sincèrement un sauveur qui va venir transformer leur vie. Mais les textes auxquels ils se réfèrent sont les textes qui parlent d'un Messie triomphant, qui parlent d'un Messie qui va rétablir la justice, qui va venir régner et mettre fin à la souffrance et à l'inégalité. Dans Ésaïe 11, par exemple, ce Messie va être tellement extraordinaire que le texte nous dit que le loup habitera avec l'agneau. Mais il y a d'autres textes que l'on connaît maintenant aujourd'hui qui parlent aussi de l'arrivée d'un Messie, mais d'un Messie souffrant. Ésaïe 53 nous parle d'un agneau immolé. Dans le psaume 22, le psaume commence en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, les spécialistes de l'époque des Écritures, les spécialistes du temps de Jésus, quand ils lisaient ces textes, ils voyaient bien le Messie dans les textes qui parlaient d'un roi de justice et un roi glorieux qui allait arriver, mais ils ne voyaient pas le Messie dans ce texte d'Ésaïe 53 ou dans le psaume 22, parce que ce sont des textes qui parlaient d'un personnage qui souffrait, qui était en galère et en difficulté, et ils ne pouvaient pas appliquer ce texte à cette idée du Messie qu'il se faisait. Pierre est choqué, et les disciples avec, par cette synthèse que fait Jésus en disant « ce Messie triomphant et ce Messie souffrant, c'est une seule et même personne. Et le Messie que vous attendez n'est pas seulement un Messie triomphant, mais c'est aussi un Messie souffrant, et c'est même un Messie qui va mourir. » Les disciples attendaient un libérateur, et Jésus leur dit quoi ? Je vais mourir, et je vais souffrir, et je vais être rejeté. Quel choc pour les disciples ! Et vous comprenez mieux maintenant la réaction de Pierre et la manière dont il reprend Jésus. Notre culture peut biaiser notre compréhension de qui est Christ. Ici, la culture juive de l'époque limitait leur capacité à comprendre que Jésus soit le Messie. Pour un musulman, c'est choquant de considérer l'idée que Christ puisse être le Fils de Dieu. Pour un athée, c'est impensable de considérer Christ comme autre chose qu'un simple homme qui a dit des paroles de sagesse et l'aspect surnaturel et spirituel n'est sans intérêt. Puis pour la plupart d'entre nous, c'est inutile de penser que Christ ait la capacité, lui l'invisible, de changer quoi que ce soit à mes difficultés dans ma vie quotidienne. Jésus réagit à l'opposition de Pierre. Il réagit par ces paroles que vous connaissez certainement dans la culture courante, « Va de retro Satana », comme on dit en latin. Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En fait, dans la traduction en français courant, Jésus dit, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Donc, Pierre pense définir Jésus à l'image de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait de Jésus. Mais il ne pense pas comme Dieu pense. Et comment Dieu pense ? Il pense à Jésus avec sa mission d'être ce roi triomphant, oui, mais qui va triompher comment ? Par la défaite, qui va triompher par la mort, qui va triompher en étant rejeté. Il va à Jérusalem pour vaincre, mais d'une manière inattendue, pour vaincre par la mort. Et le texte nous apporte une précision encore plus dérangeante pour les disciples, c'est qu'il précise la forme de sa mort. Il dit dans le verset 34 qu'il invite ses disciples à le suivre et à prendre aussi leur croix. Autrement dit, Jésus précise à ses disciples qu'il va mourir sur une croix. Alors les disciples s'attendaient à ce qu'il aille à Jérusalem pour monter sur un trône. Il y a un parallèle entre le trône et la croix. Les deux sont faits en bois. Mais la croix, c'est une pratique romaine que les disciples connaissaient à l'époque et qui était infâme. C'est-à-dire que c'était la pire condamnation possible parce que ce n'était pas une mise à mort, c'était une mise à mort publique. C'était une mise à mort visible par tous, de telle sorte que c'était une humiliation, le symbole de la honte, le symbole du désespoir. Et Jésus leur dit, je ne vais pas à Jérusalem pour vivre, mais pour mourir sur une croix. Je ne vais pas à Jérusalem pour prendre le pouvoir, mais pour le perdre. Je ne vais pas à Jérusalem pour diriger, mais pour servir. Je ne vais pas à Jérusalem pour monter sur le trône, mais pour monter sur une croix. Les disciples ne comprennent pas cette histoire sur le moment. Et il a fallu que, après la résurrection, ils refassent le film dans leur tête pour comprendre ce qui s'était passé. Regardez ce que Pierre dit lorsqu'il fait son discours à 3000 personnes en Actes 3:18. « Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. » Et Paul rajoute, dans 1 Corinthiens, qu'il prêche le Messie crucifié. En langue française, on appelle ça une figure de style, un oxymore. Le fait de mettre deux termes ensemble qui n'ont rien à voir. Comme vous connaissez cette expression poétique, lorsqu'on parle d'un soleil noir ou d'une orange bleue. Ici, Paul emploie ce terme de Messie crucifié. Ça y est, ils ont compris que ces deux aspects du Messie allaient ensemble. Ce qui nous mène à la troisième partie de ce texte, la détermination de Jésus. Il y a une expression forte dans cette phrase. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Ce verbe falloir, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'option. C'est une obligation. On aurait pu aussi écrire, il était obligatoire que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et ça soulève cette question. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Attendez, juste après, lors de la transfiguration, Jésus se retrouve en train de discuter dans une position quasi céleste avec Élie, avec Moïse. Franchement, pourquoi il n'a pas profité pour repartir avec eux? Fin de l'histoire, il est bienvenu sur la terre, les disciples ont compris qu'il était le Messie, et puis comme ça, il échappait à la croix. Mais non, pour la seconde fois, après sa venue sur terre, pour la seconde fois, il renonce au ciel. Et il renonce à la solution de facilité, il renonce à l'idée d'échapper à la croix. Et là, on voit une preuve d'amour extraordinaire et un moment de formation spirituelle pour les disciples, parce qu'après coup, lorsqu'ils vont se remémorer ce passage, ils vont réaliser à quel point Christ, volontairement, est allé à la croix. Ce n'était pas une obligation pour lui, mais c'était un choix. Et il l'a fait parce qu'il a choisi de le faire en obéissant à son Père. Maintenant, si on pense à nos propres conséquences, à titre personnel, pourquoi était-il totalement nécessaire que Christ meure sur la croix? Trois conséquences. Alors, je m'inspire ici de Timothy Keller, qui propose trois conséquences. Conséquences personnelles, conséquences légales et conséquences cosmiques. Premièrement, conséquences personnelles. On connaît tous, quelle que soit notre histoire personnelle et l'éducation qu'on a eue, on connaît la différence entre un amour authentique et un amour qui n'est pas sincère. L'amour qui n'est pas sincère, c'est un amour qui est intéressé. L'amour authentique et vrai, c'est un amour inconditionnel et vulnérable. Et il y a un constat, pour être très rapide, c'est que personne ici, et moi le premier, n'est capable d'offrir un amour inconditionnel, parfait, aux personnes qui m'entourent. Ma tendance naturelle, c'est d'aimer les gens et d'investir dans des personnes qui ne vont pas me décevoir en retour, dont je sais qu'elles vont pouvoir me donner quelque chose en retour. Aimer une personne de manière totalement désintéressée, inconditionnelle, sans attendre aucun retour, sans attendre de tirer un bénéfice de la relation que j'ai avec elle, est extrêmement rare et compliqué. Or, il y a un paradoxe, c'est qu'en tant qu'être humain, Nous sommes à la recherche de cet amour inconditionnel. Lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un, nous cherchons à avoir un échange réciproque, nous assurer que cette personne n'est pas juste en train de prendre de nous, mais qu'elle nous donne aussi quelque chose en retour. Et surtout, on a besoin d'une personne qui puisse nous faire, en qui on puisse avoir confiance à 100%. Alors cette relation, je l'ai vue tout à l'heure lorsqu'il y avait un papa qui tenait dans ses mains un petit bébé et qui avait sa joue collée contre lui, qui lui faisait des petites gratouilles sur la tête. Et certainement que ce petit bébé devait être rempli de cette affection extraordinaire que son papa lui donnait et sentait cet amour inconditionnel. Et puis ensuite, en grandissant, ben, ce genre de situation est moins fréquente. Et surtout, il est compliqué pour nous d'exprimer cet amour inconditionnel. Même si on peut en parler, on peut essayer, il y a toujours un moment où il y a des limites. Jésus a quitté son trône de clarté pour nous prouver à quel point son amour envers nous est inconditionnel. On le chante d'ailleurs dans ce chant qui dit « Jésus-Christ est Seigneur ». De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Combien j'ai dû payer pour que Christ meure? Combien je dois l'aimer pour mériter son sacrifice? Combien je dois faire de pèlerinage et de lecture de ma Bible pour que je sois digne de son amour? Peanuts, rien du tout. Jésus-Christ est mort sur la croix uniquement parce qu'il m'aime de manière inconditionnelle, sans attendre rien en retour. Jésus-Christ veut notre joie plus qu'il veut la nôtre. Et alors lorsque l'on commence à comprendre cela et que l'on découvre que Jésus-Christ est le seul qui peut nous aimer inconditionnellement, alors là, cela nous donne une énergie pour pouvoir à notre tour apprendre à aimer de manière inconditionnelle. Jésus-Christ, pourquoi est-il nécessaire qu'il meure? D'abord pour une raison personnelle, nous prouver son amour inconditionnel. Deuxièmement, pour une raison légale. Si je fais du tort à quelqu'un, imaginez que je viens chez vous, et puis en enlevant ma veste, je casse votre beau lustre qui est dans l'entrée de votre maison, auquel vous teniez particulièrement parce que c'est un lustre que vous aviez eu en héritage. En plus, il a des dorures, etc. Comment on règle le problème? Il y a un lustre qui est cassé, il y a deux solutions. Soit je paye votre lustre qui est cassé, soit vous assumez de me pardonner, mais dans ce cas-là, c'est vous qui payez la réparation de ce lustre auquel vous tenez particulièrement. Quand il y a quelqu'un qui fait du tort à quelqu'un, il y a un coût à payer. Alors, de manière plus précise, on peut vouloir faire payer le coût de la réparation à quelqu'un en lui faisant la même chose. Vous pouvez venir chez moi et puis casser aussi un lustre. Le problème, c'est que la souffrance que vous avez reçue, vous voulez la faire ressentir aussi. Et là, on tombe dans de la vengeance et c'est un cercle vicieux et tout le monde souffre et on ne s'en sort pas. Et puis juste pardonner, dire « Ah, c'est pas grave », tout en ayant une petite larme qui coule au coin de l'œil parce que vous souffrez, c'est pas non plus juste que vous soyez le seul à absorber le problème. Le coût doit être payé, et la souffrance est parfois le prix à payer pour pouvoir pardonner. Christ, en souffrant, a pris sur lui le coût de ce qu'il était nécessaire pour que je sois pardonné. Pourquoi fallait-il que Christ meure? Pas seulement pour une raison personnelle, pas seulement pour une raison légale, mais aussi pour une raison cosmique. Parce que, ici, le texte nous dit qu'il doit être rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, dans le sens où les autorités politiques de l'époque ne voulaient pas de lui et ne voulaient pas de son autorité. Mais c'est une image d'autres autorités spirituelles qui, elles aussi, ne voulaient pas de ce triomphe de Christ à la croix. Et dans Colossiens 2,15, On voit qu'à la croix, Jésus a défait les autorités spirituelles, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Plus concrètement, que nous précise la transfiguration, où Jésus est transformé en être radieux, en train de discuter avec Moïse et Élie. C'est une préfiguration de son triomphe après sa résurrection et le fait qu'il soit remonté auprès de Dieu et qu'il soit maintenant sur son trône et qu'il soit dans une position d'autorité au-dessus même de Satan qui est définitivement vaincu par son triomphe. Maintenant, quelle est la proposition de Jésus ? Et c'est le dernier point sur lequel je veux terminer. Voici ce que Jésus dit dans les versets 34 et 35. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Jésus ici insiste sur le fait qu'il a pour ses disciples un triple objectif. L'objectif d'une nouvelle identité, l'objectif d'un nouvel agenda et l'objectif d'un nouvel espoir. Pourquoi une nouvelle identité ? Le texte nous dit que pour être son disciple, il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. La première remarque que j'ai trouvé dans le livre de C.S. Lewis, « Les fondements du christianisme ». La première remarque, c'est que Jésus ne veut pas ici faire des clones, des personnes totalement identiques. Et voici ce que C.S. Lewis dit. « Imaginez des gens qui ont toujours vécu dans les ténèbres, à qui vous essayez de décrire la lumière. Bon, vous pourrez leur dire que s'ils viennent à la lumière, cette lumière va tomber sur eux, et qu'à ce moment-là, ils seront tous visibles, ils pourront se voir les uns les autres. Alors, il est bien possible qu'en retour, ils s'imaginent que baigner dans cette lumière voudra dire qu'ils auront des réactions semblables et qu'ils vont tous se ressembler. Comme ils ne se connaissent pas, c'est un peu l'impression qu'ils vont avoir. Or, ce que vous et moi savons, mais ce qu'eux ne peuvent pas savoir, c'est que la lumière mettra en évidence à quel point ils sont différents. Et voilà ce que Christ propose ici, le fait de renoncer à soi-même pour le suivre, ce n'est pas devenir tous identiques, mais au contraire, c'est découvrir notre véritable identité et devenir vraiment nous-mêmes. Deuxième remarque, il est question ici, au verset 35, de sauver sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. La vie ici, c'est l'idée de psyché, d'identité, de personnaliser, de personnalité. Vous savez, c'est comme dans psychologie. En fait, il est question ici de perdre sa vie pour mieux la sauver. Qu'est-ce que Christ nous indique ici ? Eh bien, Christ fait référence à tout ce qui peut, dans notre vie, nous sécuriser et nous donner l'impression que notre vie est bâtie sur quelque chose de solide et de valorisant. Je vous donne des exemples liés à notre culture française. Souvent, la première chose dont on discute ensemble lorsqu'on se rencontre, la première fois, c'est de s'interroger pour savoir quel est notre métier respectif. Parce que notre métier permet de, notamment, nous situer un petit peu dans où est-ce qu'on est situé dans la société. Quelle est notre place dans notre entreprise ? Quelles sont mes études ? Quel est mon état de santé ? Si je suis célibataire, est-ce que j'ai bien quelqu'un en tête et que je fréquente ? Si je suis marié, est-ce que j'ai un projet bébé ? Si j'ai déjà un enfant, est-ce que j'ai un projet deuxième enfant ? Etc. Voilà. Si j'ai l'ambition d'évoluer professionnellement, si je suis sportif, si je suis inventif, si j'ai une bonne réputation, si je m'habille bien, si j'ai un bon salaire, si j'ai une belle maison, une belle voiture, 3 enfants, un chien. Bref, une identité tout à fait normale que tout Français, auquel tout Français aspire, mais qui est motivée en fait par ma performance dans la société, par ma réussite, par l'idée que Si je gagne bien ma vie, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait pour que mes désirs soient satisfaits, pour que mes parents soient satisfaits et pour que je puisse assurer la sécurité de mon foyer. Or, ma valeur ici se retrouve définie par les choses que j'ai accomplies ou que je possède ou que, auxquelles je pense qu'elles sont garantes de ma sécurité. En réalité, ces choses ont un contrôle sur moi. Jésus explique ici, si je gagnais le monde entier, je n'aurais toujours pas une identité solide. Si j'avais même des milliards, je ne serais toujours pas en sécurité ni satisfait. Je vous donne un exemple d'un ami avec qui j'ai discuté pendant les vacances de Noël. Il a la cinquantaine. Il a commencé à travailler à 18 ans. Sans interruption, belle carrière, belle famille. Vraiment, vraiment formidable. À 50 ans, il est licencié pour raisons économiques. Sur le moment, c'est un choc. Mais pendant 12 mois, il a envoyé des CV de partout pour retrouver du travail. Pendant 12 mois, il est resté chez lui à attendre qu'on lui réponde. Et là, ça a été un deuxième choc, et voire même un traumatisme. Alors qu'il était avec une expérience plus que jamais pertinente, alors qu'il avait une longue carrière derrière lui, voilà que c'était compliqué de retrouver du travail. Et ça a engendré des problèmes aussi dans sa vie personnelle, alors qu'il avait une vie professionnelle bien remplie. Il s'est retrouvé à la maison, et lorsque sa femme rentrait du travail, il était là. Lorsqu'elle partait au travail, il était là, et il était là même tous les jours, 7 jours sur 7, à tourner en rond entre quatre murs. Quelle souffrance ! Et c'est normal ! Et certainement que si ça m'arrivait, je serais également comme dans cette situation-là. Mais sa vie ne reposait pas uniquement sur sa réussite professionnelle. Et cet ami a su rebondir. Alors que pendant 12 mois, il ne retrouvait pas de travail, tous les vendredis soirs, il a ouvert la porte de sa maison et il a invité toutes les personnes de l'église qui souhaitaient à venir chez lui pour prendre un repas, avoir un temps de convivial, pour partager la parole ensemble, et il a été, par son hospitalité, une source de bénédiction pour beaucoup de personnes autour de lui. Troisième remarque, c'est que Jésus ici est radical. Il ne dit pas « tu dois mettre de côté ta manière de vivre pour une autre » ou « tu dois diminuer ta consommation de telle ou telle activité, ou tel aliment, etc., pour prendre autre chose. » Non, il est radical. Il s'agit pas de glisser d'une identité à une autre, il s'agit de changer totalement d'identité. Regardez ce qu'il affirme. « celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » La clé qu'il propose, c'est lui, Christ, et la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Autrement dit, il explique ceci. Ça ne suffit pas de dire « Ah ok, j'ai compris, Seigneur Jésus, tu ne veux plus que je vive pour obtenir l'approbation de mes parents. Tu ne veux plus que je vive pour la réussite dans mes études. Tu ne veux plus que je vive uniquement pour la recherche d'une aventure romantique. » Ou encore, je pourrais dire « Je vais maintenant aller baser ma vie sur Dieu. » Mais en fait, ça reste complètement abstrait. Et ça reste surtout un acte de volonté. Or, qu'est-ce que la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle ne nous transforme pas, l'Évangile ne nous transforme pas, Christ ne nous transforme pas en fonction de ce que nous avons décidé. Mais l'Évangile est la promesse d'une transformation de qui nous sommes par la puissance de ce que Christ a fait et par la volonté de ce que Christ a fait. Autrement dit, ce que Jésus nous propose ici, ce n'est pas de transformer les personnes intelligentes que nous sommes en personnes encore plus intelligentes. Non, il nous propose un reset, une remise à zéro de notre intelligence pour nous proposer une autre intelligence. Et cela n'est possible que par cet amour inconditionnel que nous propose l'Évangile. Jésus dit, je suis allé à la croix et je suis mort et j'ai perdu mon identité pour que tu puisses trouver ton identité. C'est fort. Dans le psaume 22, verset 7, on lit que c'est un des textes qui s'appliquent à Jésus. Ça commence par « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et verset 7, « Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, c'est celui que le peuple méprise. » Voilà ce que Christ a accepté, de devenir plus rien, seulement un ver sur la croix, pour que moi-même, je puisse trouver une valeur qui ne dépende pas de la sécurité matérielle ou de la sécurité affective ou de la sécurité même religieuse que je peux recevoir, mais uniquement de ce que Christ a fait à la croix. Et ça, ça bouleverse complètement l'agenda des disciples. Pierre est furieux, il s'imaginait Jésus comme le Messie qui allait prendre le pouvoir politique, mais non, Jésus dit, c'est pas toi qui décides comment je vais transformer ta vie et transformer ce pays. Pierre ici, il pense pouvoir utiliser Jésus pour ses propres besoins, mais si je dis à Jésus, « Ok Jésus, je vais t'obéir maintenant si il se passe ceci ou cela. » J'utilise Jésus. Alors c'est l'inverse, Jésus veut nous utiliser et pas être utilisé. Et il nous propose ainsi un nouvel espoir, puisqu'il dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » C'est le verset 1 du chapitre 9. Autrement dit, Jésus a commencé dans la faiblesse, comme un simple homme, par la repentance, par nous montrer le chemin de la repentance. Il nous a montré le besoin d'un sauveur. Et nous aussi, nous avons besoin de passer par cette repentance, cette reconnaissance que nous avons besoin d'un sauveur, par la faiblesse, pour pouvoir, avec lui, nous retrouver dans cette position, comme la transfiguration, comme après la résurrection, de victoire, de triomphe sur la haine et de triomphe sur la mort. Je conclus avec cette confession du Père qui est la dernière référence qui termine cette transfiguration. Alors que Jésus est en train de s'entretenir avec Moïse et Élie, voilà qu'une nuée vint les couvrir et de la nuée est sortie une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le. Voilà pourquoi la souffrance contre toute apparence conduit à la gloire. Le plan de Dieu est extraordinaire et Jésus est bien à la fois ce Messie qui est le Messie triomphant, mais il est aussi le Messie souffrant. Et ces deux aspects de sa personnalité sont là pour nous proposer une nouvelle identité et nous proposer une nouvelle vie. Et alors peut-être que la compréhension de cette réalité peut être lente dans notre vie, comme le développement du langage d'un enfant qui ne comprend pas qu'on ne dit pas une balle rebondissante, mais une balle rebondissante. Mais là, l'exemple que nous avons de Pierre et de son cheminement nous donne l'espoir que Christ peut aussi nous faire comprendre le fait qu'on doit lâcher prise et arrêter de vouloir par notre intelligence comprendre l'Évangile, mais que nous pouvons le comprendre avec notre cœur.